Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde! Est-ce que vos cadeaux de Noël sont prêts? Est-ce que vous êtes allé magasiner?
Là, tu me regardes. Là, moi,
si vous êtes dans la voiture et que vous nous écoutez présentement, vous pouvez prendre une petite heure pour vous rendre où vous allez pour préparer vos cadeaux.
Tu devrais faire ça sur la nouvelle auto, faire une liste de suggestions de cadeaux de Noël.
On va en avoir une, là. T'as volé mon punch!
Yeah! Un fin journaliste que je suis.
Voilà. Ah, l'homme a du flair. On va avoir ça début de la semaine prochaine. Et on va en parler aussi, ça va être le sujet de notre dernière émission avant les fêtes, qui est la semaine prochaine.
Ah bon, ok, parfait.
Alors, on va avoir un petit segment cadeau de Noël pour ceux qui ne sont pas encore rendus là.
Tu me garderas une place ou deux, là, j'ai une
petite idée. On va se parler là-dessus. Monsieur McKenna, bonjour.
Bonjour, Monsieur Charrette.
Alors, à l'émission aujourd'hui, on va avoir, tiens, quelque chose de nouveau qui s'en vient au Québec, qui s'appelle l'atelier branché. L'atelier branché, ça va être, en fin de compte, on le sait, les véhicules électriques, là, arrivent tranquillement dans les concessionnaires de voitures, de véhicules neufs,
ouais.
Mais ce sera un jour des véhicules d'occasion. Il y en a déjà. Mais à part le concessionnaire, il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire l'entretien de ces véhicules-là.
Ben oui.
Et on va du côté de chez l'atelier branché proposer justement de faire cet entretien-là sur les véhicules électriques qui s'en viennent de plus en plus sur le marché.
Changement d'huile, ça fait le même.
Bon, et tout, là. Oui, changement d'huile. En fait, attention, il y a des lubrifiants,
oui,
dans les véhicules électriques. Il n'y a pas d'huile moteur,
ouais.
Évidemment. Mais ça va être aussi les pièces, l'entretien. Donc, puis il va évidemment avoir de la formation qui va aller avec tout ça.
Mm-hmm.
Donc, on va parler de ça avec André Gamelin et Pierre-Henri, qui est formateur pour l'atelier branché. On va avoir un essai routier. Toi, tu nous parlais du Mazda MX-30.
Oui, je reviens sur le MX-30 maintenant qu'il fait froid, savoir comment il réagit l'hiver, entre autres, et comment vous allez...
Pas sûr que je vais le savoir.
Pousser des gros mots, non, c'est exactement... C'est un peu le punch, mais bon,
bon, puis moi, je vais voir le temps qu'on a. Je reviens de faire l'essai du nouveau Jeep Grand Cherokee 2022.
Là, t'as triché parce que les photos, on voit des belles montagnes, on voit des...
Oui, non, c'est parce que...
Franchement.
Je sais, c'est parce que j'ai fait le post de bonheur le matin. On n'était pas encore avec les voitures. Alors, mais j'ai pris des photos, j'ai tout ça. Et Patrice Marchessault, que tu connais toi aussi,
ben
était
oui.
Là comme photographe officiel. Donc, vendredi, je vais avoir sur le site l'essai complet routier du véhicule. J'ai aussi roulé en Nissan Pathfinder 2022 la semaine dernière. Donc, je vais vous faire un petit résumé de tout ça. Mais évidemment,
oui.
On commence avec nos nouvelles comme d'habitude.
Exact. Et je te lance tout de suite, Benoît, avec celle-ci. Tu sais qu'une camionnette Volkswagen, c'est dans les airs depuis longtemps, là.
Oui.
Et je pense, ça c'est mon petit instinct, mon intuition, n'est-ce
pas? Ton petit doigt te dit.
Écoute, on n'a jamais été aussi près d'avoir une camionnette Volkswagen au Canada. On a parlé la semaine dernière de la volonté de Ford de redessiner de façon assez substantielle sa propre camionnette, la Ranger, la petite camionnette,
ouais,
Ranger, pour 2023. Et à travers ce redesign se trouve aussi la volonté de partager l'essentiel des composants de cette petite camionnette avec Volkswagen, qui pourrait aussi produire son propre modèle pour 2024, qui s'appelle la Maroc.
La Maroc existe, oui, exact. La Maroc existe déjà comme camionnette en ce moment, mais ce n'est pas un dérivé du Ranger.
Ben, on sait que Volkswagen et Ford ont depuis quelques années des partenariats
des
pour échanger des morceaux, n'est-ce pas, des composants.
Exact.
La Maroc aurait évidemment des airs très différents de la Ranger, mais sous la carrosserie, il y a beaucoup de composants qui seraient identiques, incluant la motorisation. Donc, il serait question de partager le 4 cylindres turbo et même le V6 que Ford offre sur la Ranger, ainsi que la boîte de transmission à 10 rapports qui est utilisée par, justement, la camionnette de Ford. Il est question d'une boîte manuelle à 6 ou 7 rapports, mais là, ça, je ne sais pas si la Ranger a ça dans cette fiche technique.
Pas ici. Est-ce que c'est possible de le faire? Sans doute, oui. Il n'y a rien d'impossible.
Ça serait
intéressant.
Ouais.
Mais peut-être ailleurs dans d'autres marchés, mais il faudrait moi aussi que je vérifie.
Ouais. Les plans officiels chez Volkswagen, pour être bien clair, là, c'est de commercialiser la Maroc en Afrique, en Asie et en Europe. Donc, partout sauf en Amérique, finalement. Cela dit, le groupe allemand n'a pas fermé la porte à sa mise en vente en Amérique du Nord, éventuellement. La raison est assez simple. En fait, il y a deux affaires. Premièrement, si on veut vendre des véhicules aux États-Unis, il faut soit les fabriquer sur place ou alors payer une taxe à l'importation de 25% dans le secteur automobile, ce qui est en train de discuter à Washington. Les Américains sont en train de resserrer les frontières, puis ça va coûter cher.
De façon un peu abusive, je trouve, effectivement.
Mais dans le cas d'une Volkswagen, dans le cas d'une camionnette comme celle que Volkswagen pourrait vendre, comme c'est dérivé de la Ranger, pourrait être produite aux États-Unis, même qu'elle pourrait être produite au Michigan, parce que c'est là où la Ranger est assemblée.
Oui, on pourrait prendre la même ligne de montage et faire le produit, effectivement.
Exactement. Et on sait que importer une voiture ou un véhicule au Canada seulement sans le vendre aux États-Unis, c'est complètement, ça coûte trop cher, ça aussi, pour plein de raisons.
Oui.
Et là, produire une camionnette au Michigan, on est à côté du Canada, donc ce serait une option tout à fait envisageable. Ça a été discuté, ça a été demandé aux gens par des médias spécialisés, aux gens de Volkswagen, et effectivement, ils n'ont pas fermé la porte. Ils n'ont pas dit que ça arriverait, ils n'ont pas dit que ça n'arriverait pas. Mais on sait que le créneau des camionnettes est extrêmement populaire.
Ben, en fait, ça a repris du poil de la bête. Exact. Parce que pendant longtemps, on avait un peu laissé de côté. Tu sais, il y a le Frontier qui a gardé le fort pendant des années avec le Tacoma, qui était pas vraiment des compacts. C'était plus proche de l'intermédiaire que du compact. Puis là, tranquillement, hop, on est revenu chez GM, on a ramené le Colorado, on a ramené le Canyon.
Le Ranger,
avec succès. Puis là, c'est le Ranger.
Hyundai avec son Santa Cruz, il y a vraiment il y a une diversification dans ce créneau-là.
Exactement. Puis là, je pense qu'on trouve une utilité qui n'est pas professionnelle, mais récréative. Et je pense que beaucoup de gens y trouvent leur compte. Le Maverick se vend très bien en ce moment chez Ford. Et on est encore dans le plus petit, là, tu sais.
Oui, pourtant, donc, ça fait à peine commencer, en plus.
Exactement. Là, donc, parce qu'on a déjà mis fin. En fait, ceux qui veulent un modèle hybride, faut attendre à l'été prochain avant d'en commander. Ford a épuisé tout ce qu'il y avait de Maverick hybride. En fait, on a eu la bonne idée chez Ford de mettre le modèle hybride comme modèle de base. Parce qu'habituellement, l'hybride, c'est un surplus.
Oui.
On paye, c'est une prime. Là, on le met en modèle de base à tout juste un doigt sous les 20 000 $ américains. Et ça s'est envolé comme des petits pêches.
C'est un bon petit groupe hybride en plus.
Absolument.
Dans le contexte.
Absolument. Mm-hmm. Autre nouvelle, on reste dans la famille Volkswagen, mais on s'en va chez Porsche.
Ben oui, c'est un peu hasard, mais imagine-toi donc que Porsche, comme ils disent en anglais, Porsche pourrait quitter le groupe Volkswagen. En fait, l'agence de presse Reuters a lâché la bombe là, plus tôt cette semaine pour financer le développement de ses futurs véhicules électriques, parce que ça coûte cher, on s'entend. Le groupe Volkswagen pourrait SMer, comme on dit en bon français, en anglais, on fait un spin-off.
Oui, SME, j'aime bien ça.
Oui, c'est le mot officiel de sa division Porsche, et l'envoyer en bourse, tout simplement. On aurait donc droit à un groupe automobile entièrement indépendant appelé Porsche AG. Évidemment, c'est une compagnie allemande.
Évidemment.
Et honnêtement, c'est un petit peu dans l'air du temps, ce genre de pratique-là. On le sait avec Polestar, là, du côté de GM et Volvo.
Polestar Rivian, récemment, Rivian, qui a fait un malheur en bourse.
Exact. Mais dans le cas de Porsche, ce serait aussi un gros coup d'argent pour toutes les parties impliquées, puisque la marque allemande vaudrait, selon des analystes indépendants, pas loin de 170 milliards de dollars canadiens. Ça, c'est 120 milliards d'euros. C'est des gros sous.
Ouais.
Ça veut pas dire...
Et évidemment, Volkswagen en mettra un petit peu dans ses poches par la même occasion.
On se comprend, effectivement. Cela dit, il ne prendrait pas la totalité du montant. Il y a d'autres actionnaires qui pourraient aussi en profiter. En fait, et là, c'est le fun, parce que si on rentre dans la petite histoire du groupe Volkswagen, Porsche et toute la famille...
Petite histoire! Non, écoute, il faut le dire, là.
Ça se complique vite.
Il y a deux cousins qui sont pas capables de se parler.
Exact.
Ferdinand Piëch et Wolfgang Porsche. On a essayé de faire une espèce de putsch il y a quelques années où Porsche a tenté carrément de racheter Volkswagen. Ça a fini par foirer, puis Volkswagen est resté le maître d'œuvre de tout ce groupe-là. Mais on peut pas inviter Ferdinand Piëch et Wolfgang Porsche au même souper. Ils se présenteront pas là. Puis ça remonte à aussi loin que lorsque Ferry Porsche, il y a eu Ferdinand, il y a eu son fils Ferry, et Louise Porsche et Ferdinand Piëch sont les enfants, Wolfgang Porsche sont les enfants de Ferry. On avait décidé de laisser à un côté de la famille... Parce que lorsque le grand-père... Ah, écoute, là, on rentre dans l'histoire. Lorsque Ferdinand Porsche a signé son entente avec Adolf Hitler, on recule aussi loin que ça, il avait demandé l'exclusivité des ventes du groupe Volkswagen en Autriche. Parce qu'il était autrichien, Ferdinand Porsche. Et, OK, parfait. Et à ce jour, encore aujourd'hui... C'est la famille, avec Louise Porsche en tête, qui dirige les concessionnaires Volkswagen en Autriche. Alors, il y a ce côté-là de la famille qui est resté concessionnaire.
Mm-hmm.
Et Wolfgang, lui, a décidé de prendre la succession de la famille au sein de la compagnie. Pierre a décidé que lui voulait mettre sa main là-dedans, puis il était mettre un peu de vitriol dans tout ça.
Plus le fun encore.
Et pour parler à mon Québécois, la mare des poignées depuis ce temps-là. mais Pierre est un vrai redoutable homme d'affaires et Wolfgang Porsche est plus comme Ferry, son père, tranquille, pas, il lève pas trop, un homme de famille, tu sais, qui aime pas trop la confrontation. Puis il est tombé avec un cousin qui est un
le couteau entre les dents.
Voilà, exactement. Oui. Bon, excusez la parenthèse historique.
Non, mais ça fait un beau résumé. Puis écoute, je vais en rajouter une couche. Il y a Porsche, la marque, le constructeur, et il y a Porsche SE qui est le holding qui appartient à la fois à la famille Piëch et à Volkswagen. Exact. Donc c'est encore plus compliqué. Je pense que un élément de la volonté de mettre Porsche en bourse, ce serait d'effectivement faire le ménage dans tout ça.
Oui, mais j'ai hâte de voir si ça se fait, comment on va diviser tout ça.
Ben, surtout que la famille Piëch est prête à diluer sa participation de Volkswagen pour être majoritaire du côté de Porsche.
Bon, il faut dire que Ferdinand Piëch a les 86, 7, 8 ans. Là,
ouais, faut, pas, ça ne l'empêcherait probablement pas de. Mais effectivement, il y a des gens qui le conseillent aussi.
Exactement.
Et quand on parle de milliards par dizaines et par centaines, cela dit, le PDG de Volkswagen, M. Herbert Diess, il est resté évasif. Hein. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, lui non plus. Il a dit, écoute, on gère nos actifs de la meilleure façon qu'on peut, mais clairement, c'est dans l'air du temps. On risque de le savoir rapidement parce qu'on parle d'une résolution quelque part en 2022 lors d'une rencontre des actionnaires.
Histoire à suivre qui est fort intéressante. Moi, j'ai une petite nouvelle de mon côté. Si vous avez un véhicule d'occasion, là, on a fait une petite étude du côté de Manheim et de Cox Automotive aux États-Unis, mais bon, Manheim est aussi au Canada, donc je pense que ça a valeur de référence chez nous aussi. En fait, le prix à l'encan des véhicules d'occasion établit de nouveaux records en novembre. La demande des consommateurs demeurant élevée. Écoute, entre l'an dernier, en novembre 2020, et cette année, 2021, le prix des véhicules d'occasion augmentant en moyenne de 44 %.
Wow!
Donc, si vous avez un véhicule d'occasion et que vous avez envie de le vendre, maintenant, ça sera un Moses de bon moment pour le faire.
C'est juste qu'il ne faut pas acheter après.
Bon, ben voilà. Évidemment, tout dépendant de ses besoins.
Acheter un vélo.
Mais c'est vrai, dans la majorité des cas, en fait, même entre octobre et novembre, il y a eu 3,9% d'augmentation. D'habitude, on voit des 0,2, 0,1.
Ben, c'est une combinaison, c'est qu'il y a aussi les véhicules les plus bas de gamme n'existent plus. Donc, ce qui se vend, c'est des véhicules qui valent plus cher, en plus de la valeur comme telle des véhicules.
Puis là, ben évidemment, il y a eu le même constat du côté de Black Book. Black Book a dit qu'on a augmenté de 45% depuis un an. Et on prévoit que ça va continuer au moins en décembre. Faut voir, parce que là, ce qui commence à ralentir, c'est pas le fait qu'il manque de véhicules, c'est que les prix sont rendus tellement élevés que les gens se disent on va peut-être attendre un peu finalement, parce que là, il y a des limites à ce que les gens peuvent s'offrir et peuvent se payer. Mais on dit que l'inventaire est bas. Cox Automotive estime que l'offre des véhicules d'occasion au détail est en moyenne de 49 jours. L'offre normale est à 44 jours. Alors là, on voit là qu'il y a une petite tendance de ce côté-là. Mais on dit que on regarde, sauf que de point de vue pénurie, puce et pandémie, on prévoit que 2022 va être un peu beaucoup à l'image de 2021. Donc, ces prix-là risquent d'être valables encore pour un certain temps, là, tant qu'on n'aura pas rétabli une certaine normalité dans la production des véhicules neufs. Mm-hmm. On va s'en retrouver avec ça. Alors voilà, c'est à nos petites nouvelles qui font le tour rapidement. On va passer à une première pause et on va revenir après ça avec André Gamelin, qui va nous parler de l'atelier branché.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Salut, on est revenu et on va avoir pas un, mais deux invités. Sujet fort intéressant cette semaine parce que c'est nouveau. Vous le savez, les véhicules électriques, on en parle pratiquement toutes les semaines à l'émission. Ça occupe une place dans le paysage automobile qui est de plus en plus grande. Et il va y avoir bientôt au Québec quelque chose de nouveau qui s'appelle l'atelier branché. En fait, c'est une initiative de quelqu'un qui est déjà dans le monde de l'automobile, dans le monde des pièces d'auto. Et le but de l'atelier branché, c'est non seulement d'informer, de sensibiliser sur l'entretien des véhicules électriques, mais c'est de créer, si on veut, une nouvelle bannière, une nouvelle source, une nouvelle référence
dans l'entretien, la formation, la réparation des véhicules électriques au Québec. Et pour en parler avec nous, on a le président de Pièces d'Auto Super, André Gamelin. Salut, André!
Bonjour, Benoît, et bonjour, Alain aussi.
Bonjour, André.
André, moi, je te connais, je sais que tu es un visionnaire dans le monde des pièces d'auto. Tu fais des choses que personne fait, tu vois des choses que personne voit. Et encore une fois, tu as mis sur pied un programme, une bannière qui va aller de l'avant, là où personne n'a encore mis les pieds dans le monde d'automobile, dans le monde des ateliers mécaniques. Parle-nous un peu de l'atelier branché. D'abord, comment t'es venu l'idée? Puis comment t'as mis ça sur pied? Parce que c'est toute une job, cela, là.
Ah oui, il y a plusieurs centaines d'heures. Bien, tout simplement, ça a commencé que je suis toujours intéressé à faire progresser le domaine. J'ai commencé par aller au CES à Vegas. La première fois, quand je me suis inscrit, j'étais à peu près le seul magasin de pièces d'auto qui allait au CES pour découvrir que tout ce qui était au point de vue électrique, véhicules, ZF, les grosses compagnies étaient là, Bosch. Mm-hmm. Ah, puis là, j'apprenais des choses qui étaient pour arriver dans notre marché. Après ça, on s'est inscrit au Salon des véhicules électriques avec le groupe tout simplement du SVM Montréal. Mm-hmm. Puis avec ça, on a découvert que les gens, il y avait beaucoup plus de questions que de réponses à notre kiosque. On avait un électricien qui parlait des bornes, des entrées électriques. On avait tout ce qui pouvait entrer l'électrique là pour découvrir, OK, on part de loin. Là. Les gens ont beaucoup, beaucoup de questions. Et l'électrique, c'est large. Là. Quand on parle du mild hybride, aller jusqu'au plein électrique des véhicules, là, j'ai dit, il y a de la grosse ouvrage à faire.
Mais à quel point, André Gamelin, est-ce que au niveau, parce que bon, dans les pièces d'auto, on est habitué au modèle à combustion interne, parce que ça fait 100 ans qu'on est là-dedans.
Oui.
À quel point il y a du travail à faire ou du matériel ou de l'inventaire à changer quand on tombe dans l'électrique?
Bien, quand on tombe dans l'électrique, il faut savoir que les ateliers sont formés indépendamment de qualification. Quand on parle de véhicules, ils possèdent tous l'équipement pour réparer les véhicules selon leur niveau où ils sont présentement. Quand on attaque le véhicule électrique, ben souvent, c'est oui, il y a un équipement qui est requis pour ça, mais c'est pas faramineux. Ce qu'on va, c'est qu'on prend de la table pour descendre la batterie, mais c'est pas vraiment là qui est l'important, c'est d'être équipé au point de vue sécurité. Quand il va y avoir un entretien de frein à faire sur un véhicule hybride ou hybride branchable, c'est les mêmes choses qui vont être à faire. La seule chose, les ateliers, ben ils ont tous un Mitchell on demand qui lisent les spécifications du manufacturier pour faire l'entretien. Après ça, ben, quand on va rentrer vraiment dans le haut voltage, c'est d'autres formations qui vont être poussées. Ouais. Mais en tant que tel, il y a un tas d'ateliers qui peuvent faire beaucoup d'ouvrages présentement.
Donc, et puis je vais spécifier parce que tu m'as expliqué comment ça fonctionne. Tu ne veux pas te substituer aux bannières existantes, là. C'est un complément aux bannières existantes. Donc, ce que tu proposes avec Atelier branché, c'est d'ajouter un service supplémentaire à un atelier qui est déjà existant.
Oui, on fait des rencontres avec les ateliers pour les expliquer. Là, je vais faire une drôle d'analogie. C'est qu'il y a très longtemps, quand on voyait un motel ou un hôtel ou un restaurant qui disait air climatisé, on allait manger là. Quand il marquait Wi-Fi, on allait à l'hôtel parce qu'on pouvait se brancher. Mais je me suis dit, point de départ, l'atelier se doit d'avoir une borne électrique, ne serait-ce que pour dire bienvenue dans l'atelier mécanique. C'est le premier point de base.
Et effectivement.
Puis, on sait qu'un atelier mécanique avec sa clientèle, c'est quasiment comme un docteur avec le patient. Donc, ça va engendrer une discussion. Monsieur X, qui a un véhicule X, qui va dire, ben, je suis content de voir que tu t'intéresses à l'électrique. Donc, ça va engendrer une discussion. Au lieu d'avoir peur de progresser vers l'électrique, ben, l'atelier va être confondu à faire de la propagande pour l'électrique.
Ah oui, ben en fait, c'est ça. C'est qu'on veut, d'une part, démocratiser l'accès à ces ateliers-là et rendre les gens qui sont propriétaires d'un véhicule électrique d'être à l'aise, justement, allés dans un atelier mécanique. Là. Donc, c'est le but. Là, il existe déjà un site. Là. Vous avez déjà mis ça sur pied, là, atelierbranché.com. C'est là. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches auprès d'un certain nombre d'ateliers mécaniques au Québec?
Définitivement, on a déjà des ateliers qui sont inscrits sur le site. On a beaucoup de démarches à faire parce que la beauté de ça, c'est ce qu'on appelle c'est un programme qui s'ajoute à n'importe quelle bannière. Le but total, c'est de créer comme une toile du Québec. Peu importe où les gens vont être, ils vont pouvoir trouver un atelier qui est formé à réparer le véhicule et à l'entretenir. C'est le but ultime. Fait que l'atelier.branché.com, ça va être un regroupement d'ateliers qui va être simplement en mesure d'entretenir les véhicules.
Là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, il y a combien d'ateliers mécaniques au Québec à peu près?
Sais-tu, j'ai jamais répertorié, mais nous autres, juste sur la Rive-Sud, avec notre Rive-Sud, on en sert à peu près 1000 ateliers.
OK, fait sur la Rive-Sud.
Okay. Sud de Montréal.
Ouais, okay. C'est ça. Puis je ne couvre pas entièrement la Rive-Sud, mais il y en a énormément. C'est qu'on les ateliers, on est porté à penser, il y a beaucoup d'ateliers qui ne sont pas bannierés, mais qui sont extrêmement professionnels, mais sont laissés seuls, ces gens-là.
Ben, des ateliers... Tu sais, on dit toujours à la blague dans le milieu de la mécanique qu'il y a beaucoup d'ateliers indépendants avec deux portes de garage, puis que c'est une opération familiale où il y a souvent deux, trois employés maximum.
Oui.
Mais pour ces gens-là, comme tu dis, ils sont très performants, ils font du bon travail.
Oui.
Et dans le fond, toi, t'ajoutes un service à ce que ces gens-là vont pouvoir avoir. Puis je pense que l'avantage, parce que pour des gens qui achètent des véhicules électriques, surtout si on parle un peu plus en région, le concessionnaire le plus proche, souvent, on a des fois 50, 100 kilomètres à faire pour se rendre. Alors, si on a un atelier qui est en mesure de réparer ça à quelques pas de chez soi, c'est un avantage certain, là.
Oui, puis c'est sûr que déjà dans notre domaine, on a déjà des ateliers super performants au point de vue électrique, là. Ils ont l'outillage, ils ont commencé il y a 2, 3 ans, 4 ans, là. Quand on leur parle aujourd'hui, là, sont très avancés.
Ah non, non, c'est intéressant. Puis un des autres aspects, puis j'embarque là-dessus parce qu'on a un deuxième invité qui est avec nous, c'est la formation. Parce que évidemment, tout ce qui est électrique est nouveau pour beaucoup de gens et tout ce qui est nouveau a besoin de formation.
Ben oui.
Et Pierre-Henri est formateur, on l'appelle le formateur extrême. C'est pas un homme extrême.
Ça fait du mal.
Le soyez sans crainte, ça fait pas mal. Mais Pierre-Henri, je dirais que c'est ses connaissances qui sont extrêmes parce que c'est un homme extrêmement féru dans tout ce qui concerne l'électrique. Pierre-Henri, bonjour.
Hey, bonjour, M. Benoît. Bon. Alain, on essaye d'être extrême, là, mais la technologie évolue très vite. Là.
Ben, bon, Pierre-Henri, parle-nous un peu de ton rôle, parce qu'André nous a parlé des bannières, nous a parlé, en fait, d'ateliers branchés, ce que ça va être, mais il y a aussi beaucoup de suivi derrière ça, beaucoup de gens qui vont justement s'assurer qu'il y a un support technique, qu'il y a des gens derrière ça qui vont faire en sorte que on va supporter, épauler et aider tous ceux qui vont avoir le nom Atelier branché de rattacher à eux, là.
En plein ça. Moi, avec mon équipe, on est maintenant 4 formateurs. On va travailler sur de la formation pour tous ces garages-là. Formation de base, là, les mesures de sécurité, parce qu'on parle de haut voltage, de 400 volts, 800 volts. On peut s'électrocuter sur ces voitures-là. Le terme aussi, je sais pas si c'est approprié, le arc flash, les espèces d'étincelles qui pourraient arriver en cas d'une mauvaise procédure, une mauvaise manipulation. Donc, faut apprendre quand se protéger, où se protéger, quand qu'on va réparer la voiture. Mais je vous compterai pas de montrer 90% de l'ouvrage qu'il va avoir dans une voiture électrique. Ça va être de l'entretien, puis ça va être ce qu'on appelle, nous, undercar, direction, suspension, frein. Les routes sont pas plus belles au Québec parce que vous avez une voiture électrique.
Et non, et malheureusement.
Voiture est plus pesante. La voiture est plus lourde, ben oui, c'est vrai.
Ben oui.
Et la voiture est plus pesante. C'est sûr que déjà là, il y a 90% des garages. On va les former parce que, oui, il y a des procédures un peu spéciales, là. La plupart des voitures électriques, la batterie est refroidie au liquide. Donc, il va y avoir du changement de liquide refroidissement à faire. Pour purger les freins, c'est différent sur une voiture électrique. Puis là, je vous parle, là, le mécanicien de base. Mais bien sûr, on va prendre aussi le meilleur mécanicien, on va prendre le technicien du garage, et lui, on va l'amener à un niveau plus élevé. Je sais pas si vous savez, mais dans une petite Chevrolet Bolt, il y a 40 ordinateurs, il y a 40 modules.
Ah oui, absolument.
Qui doivent être diagnostiqués. C'est que là, ben, c'est quoi les différences? C'est quoi l'approche qu'on va avoir? Comment qu'on va apporter le diagnostic? C'est quoi les outils? Parce que quand on travaille sur une voiture électrique, là, faut toujours travailler comme si la voiture est sous tension. Tant et aussi longtemps qu'on l'a pas enlevé la tension, là, faut se protéger. Un coup qui est pas sous tension, il y a pas vraiment de problème avec la sécurité. Mais si jamais on descend la batterie, ben là, vous comprendrez qu'on rouvre la batterie, et là, ben, la batterie est toujours sous tension, elle. Ouais. Et il va falloir se protéger adéquatement.
Donc, si je comprends bien, oui, Alain, tu levais la main.
Oui, c'est ça, de façon très silencieuse. Ben, je sais pas si je peux vous demander ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment ça bricoler chez eux le samedi, là, dans le garage, changer les freins, entre autres, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, quand même, que les gens peuvent faire encore avec une voiture électrique, ou c'est toujours mieux d'aller faire ça chez un spécialiste?
Ben, vous êtes mieux d'aller dans un atelier branché. Sérieusement, je vous donne un exemple. Les Ford Escape appliquent les freins quand la clé est à off après 45 minutes, juste pour faire une revérification.
Ah oui.
Imaginez-vous, c'est en train de faire les freins, puis la voiture applique les freins. Donc, il y a des procédures particulières, là. On parle plus de l'ancienne voiture que les gens là bisounaient là, sur leur voiture.
On est rendu loin de là, hein?
Mm-hmm. Oui, en plein ça. Moi, je vous dis, sérieusement, de faire affaire à des professionnels avec toute la technologie qu'il y a là, les coupes de serrage un peu partout, on va en voir de moins en moins là, des mécanos de fin de semaine, puis ça va être des ateliers spécialisés qui vont travailler là-dessus. Puis moi, mon mandat là-dedans, mais c'est bien sûr déformer pour lui montrer que hey, oui, ça se répare. Il y a des différences. Mais oui, c'est fait par un humain. Puis on va être capable de réparer ça et diagnostiquer les problèmes aussi. Parce que en réalité, on veut rester en business dans l'après-marché aussi. Là.
Ben c'est ça. Puis ce qu'il y a d'intéressant, Pierre-Henri, c'est que vous allez avoir des séances de formation, mais le soir, pour un peu laisser les gens travailler le jour, parce qu'on le sait. La pénurie de main-d'œuvre, c'est partout. C'est aussi dans les ateliers mécaniques. On manque cruellement de gens à bien des niveaux. Et de faire ça le soir, sur place, ça va éviter aux gens d'avoir à prendre des heures durant le jour où on travaille.
En plein ça. L'idée, c'est de les former. Mais l'idée aussi, ils ont des problématiques à l'interne, là, puis oui, le manque de personnel, puis il y a eu beaucoup d'ouvrages depuis la COVID dans les garages, ça n'arrête pas beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'un peu s'associer qu'eux autres, puis de regarder le temps plus mort, qu'on puisse faire de la formation. Et oui, ça va être de soir, en après-midi, de soir, j'ai des voitures électriques pour donner la formation, on va en démonter, etc. Je veux m'assurer qu'il y a toujours de la pratique dans mes formations, là.
Bon, puis je vais terminer avec André Gamelin. André, parle-nous un peu de ce qu'il y a de fait jusqu'à date et de quel avantage on a, parce que je sais que tu as mis volontairement les frais d'adhésion très bas pour les ateliers mécaniques, oui. Justement pour amener ces gens-là, puis qu'il n'y ait pas de crainte à ce niveau-là. Là.
Non, c'est l'atelierbranché.com, tout simplement, les frais sont de 20$ pour y adhérer. C'est jeune...
20$ par mois, il faut préciser.
Par mois seulement. Aye. Puis on donne tous les vectoriels. L'atelier peut s'afficher comme il le désire. Il veut une casquette. Il va tout faire lui-même dans son atelier. C'est lui qui va décider. C'est seulement un programme, un ajout pour lui aider à participer à la toile du Québec. Parce que quand on a créé ça aussi, on a rencontré beaucoup d'intervenants. On a rencontré Simon-Pierre Rioux de l'AVEC, l'Association des véhicules électriques. Mm-hmm. Il nous a donné des recommandations. C'est qu'aussi, on voulait étudier l'état psychologique, comment les gens pensent dans l'électrique. C'est important de comprendre. Puis, ils sont sensibles. Quand tu achètes un modèle Tesla, que tu as payé 100 000 $ ben tu vas être sûr que quand ils vont embarquer sur le pont élévateur, tu vas l'embarquer d'une bonne façon pour pas toucher au bateau ou quelque chose de même.
Oui. Puis moi aussi, je serais un peu sensible à tout ça, je pense.
Tout véhicule de 100 000 $ on fait attention.
Oui, c'est ça. Exactement. Puis là, au moment où on se parle, est-ce que vous avez prévu une date pour commencer tout ça avec les affiches, avec les premiers bannierés?
Disons qu'on a déjà beaucoup d'ateliers. Là, on est présentement en formation.
Okay.
Je vais vous dire qu'on fait des groupes de formation. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a tellement d'ateliers qui veulent de formation. Là, on arrive à Noël. Mais disons qu'en janvier, le tout va être lancé parce que même à l'intérieur de l'entreprise, ici, les représentants qui s'occupent d'informer les ateliers, à toute fois qu'on rencontre un atelier, ils lèvent automatiquement la main et veulent embarquer parce que ce qui est bizarre à dire, peu importe le regroupement, il n'y a à peu près jamais rien eu qui a été présenté, qui est fonctionnel sur une base totale du Québec en ayant un aspect marketing pour l'atelier.
Oui, c'est ça. En fait, c'est que vous offrez un tout. C'est-à-dire que vous offrez une bannière, vous offrez du service, vous offrez du support et vous offrez surtout une formation en électrique, ce que personne d'autre faisait, peu importe la bannière en ce moment au Québec. Donc, vous êtes... t'es encore un innovateur, André. Je l'ai dit tantôt, tu continues là-dedans. En tout cas, ce qu'on te souhaite, c'est un grand succès. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pierre-Henri, un grand merci aussi. Puis, messieurs, on va en reparler parce qu'il va y avoir beaucoup de suivi dans ce chapitre-là. Puis, on va se tenir au courant. Un grand merci à vous deux.
Merci. Merci à vous deux.
Merci, messieurs.
Salut bien. Alors, nous, on prend une petite minute. On va à la pause.
Ouais.
Et on revient avec nos essais outils.
Vous voulez plus de balados? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est déjà le dernier bloc de l'émission. On va parler de nos essais routiers. Juste pour vous dire avant que si vous voulez écouter le balado, ça tient la route, on peut aller sur sa plateforme préférée, Google, Spotify, Apple et compagnie. C23, évidemment, les plateformes du groupe Cogeco. Sur le 98.5 ici à Montréal, vous allez sur le site 98.5fm.ca dans la section balado et vous allez dans Ça tient la route. On est avec Paul Arcand, Patrick Lagacé, les gens qui font aussi la poche bleue.
Des gens connus et populaires.
Voilà, absolument. Et je voulais aussi vous dire que vous pouvez aller sur annuelauto.ca. On fait une mise à jour des balados chaque semaine sur le site. Alors voilà, c'est dit. Petite chronique rapide de nos amis d'Écolo Auto. On parle cette semaine des 10 véhicules électriques les plus sécuritaires, parce qu'il y a une étude qui a été faite par l'IIHS aux États-Unis, l'organisation qui s'occupe d'évaluer la sécurité des véhicules pour l'Amérique du Nord, surtout les États-Unis, qui ont publié un rapport qui affirmait que la sécurité des véhicules électriques était au minimum aussi bonne que celle des véhicules à essence. Donc, les gens qui avaient des craintes, voilà. Il y a deux désignations qu'on donne du côté de l'IIHS, meilleur choix sécurité plus et meilleur choix sécurité. Donc, il y a comme un qui est un petit peu plus que l'autre.
Il n'y a pas de mauvais choix.
Mais il n'y a pas de mauvais choix. Dans les deux cas, les véhicules doivent obtenir la meilleure note dans les tests de collision. Ça, c'est déjà important. La différence avec les modèles qui ont obtenu le plus versus ceux qui ont bas le plus, c'est qu'une meilleure performance au niveau des phares et des technologies de sécurité embarquées. Donc, c'est pas nécessairement au niveau de l'impact, mais c'est plutôt au niveau de tout ce qui entoure le véhicule. En ce moment, il y a 4 véhicules électriques qui ont obtenu la meilleure cote de l'IIHS, donc la désignation sécurité plus. Tesla Model 3, Volkswagen ID4, Audi e-tron et le Volvo XC40 Recharge.
Ah oui.
Donc ça, c'est les 4. La Ford Mustang Mach-E a récemment reçu la désignation de meilleur choix sécurité, comme la Volt. Donc, il y a des un peu moins, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est pas nécessairement au niveau de l'impact. Ensuite, il y a certains modèles qui n'ont pas encore été évalués séparément de la version à essence, comme le Kona, par exemple, comme la Kia Soul. Donc, on a les résultats de l'IHS, mais pour le modèle à essence, on n'a pas encore évalué le modèle électrique. Ensuite, il y en a qui n'ont pas encore eu d'évaluation complète, comme la Nissan Leaf, la Tesla modèle Y et modèle S. Donc, ces modèles ont par contre reçu 5 étoiles du côté du NHTSA, le National Highway Traffic Safety Administration. Donc, c'est des modèles intéressants. Dans la prochaine année, on va tester entre autres la Mazda MX-30, dont tu vas nous parler dans quelques secondes, la Ioniq 5, qu'on s'en va essayer la semaine prochaine, et la Kia EV6, qui est l'équivalent de la Ioniq 5. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur l'article, vous faites ecoloauto.com et vous avez l'article qui est complet. Et moi, je vais le publier sur annuelauto.ca. avec l'émission de cette semaine d'ici la fin de la semaine.
J'avoue que des tests de conduite avancée avec des véhicules électriques, ça pourrait être intéressant. Au moins tester, tu sais, les pneus, l'adhérence, la perte de contrôle, ces choses-là.
Alors, en 5 minutes, parle-nous du Mazda MX-5.
Ben écoute, c'est le MX-30, donc MX-5, j'aimerais donc ça, mais peut-être dans 6 mois, tu sais.
C'est un peu tard.
Cela dit, on a déjà parlé ici du MX-30, donc je voulais revenir sur le sujet, car malgré ce qu'on a dit l'autre jour, il y a des caractéristiques dans, et des particularités de son comportement qui m'ont quand même assez surpris. Surtout que j'ai demandé à Mazda de l'essayer tout l'hiver parce que je voulais voir, parce qu'on le sait, l'autonomie du MX-30 est assez courte, là, à 160 km sur papier.
Oui.
Mais première impression, le MX-30, contrairement à ce qu'on peut avoir comme impression là, quand on voit sur le site web ou les annonces et tout ça, ce n'est pas un VUS. Les gens qui vont chercher un utilitaire électrique dans ce genre de format-là vont probablement regarder un Kona électrique, un Niro EV, des choses comme ça.
Ouais.
Et dans le cas du MX-30, on est plus près du Niro, qui est plus une familiale, finalement. Et même là, la comparaison est assez boiteuse parce que le MX-30 n'a pas 4 portières latérales complètement distinctes et autonomes. Ce sont 2 portières, en fait, qui sont agencées en mode opposé, les fameuses,
Les portières suicides. La RX-8 avait le même principe.
C'est vraiment un clin d'œil à la RX-8, en fait, qui a été fait dans un contexte où c'est peut-être pas approprié parce que, le MX-30, c'est une voiture familiale et je peux vous le dire pour l'avoir essayé avec des enfants qui revenaient d'une pratique de soccer avec leur sac et tout le kit. C'est vraiment pas commode, d'avoir ces 2 portières parce qu'il faut que le passager à l'avant sorte pour ouvrir la porte. Et c'est très compliqué. Parlant d'enfants, les trois places à l'arrière sont en réalité plutôt deux places. Donc, en partant, il faut le savoir, c'est pas une banquette plate. La place centrale est assez rigide, puis elle est un petit peu surélevée, comme s'il y avait un arbre de transmission en dessous de la carrosserie. Et pourtant, dans une voiture électrique, il ne devrait pas en avoir. Il n'y en a pas besoin. Donc, c'est pas quelque chose qu'on aurait dû, en fait, faire de cette façon-là. Donc, c'est un petit peu décevant. Cela dit, là, pour voir le bon côté des choses, il faut vraiment considérer le MX-30 comme une Mazda 3 un peu plus spacieuse. Et là, on a une bonne idée de ce que ça peut donner comme genre de véhicule. Au prix que coûte ce véhicule-là, d'ailleurs, c'est une bonne comparaison. Le modèle de base coûte 42 000 $, un petit peu plus que 42 000 $.
Ouais, puis 45 000 pour le modèle GT.
Exactement. Là. Qui est un petit peu plus équipé, mais qui est pas un. Tu sais, souvent, le modèle de base, c'est comme, ben, il est pas assez équipé, il faut vraiment acheter l'autre.
En fait, honnêtement, c'est tout à fait suffisant. Dans ce cas-là précis, je vois pas nécessairement l'intérêt d'aller chercher le modèle équipé.
Exact. C'est exactement ça. Donc, et à 42 000, on a quand même droit aux rabais gouvernementaux là, qui font l'équivalent d'un petit peu plus que 11 000 $ avant taxe. Donc, ça vient à un prix légèrement supérieur à 30 000 $. Disons, entre 32 et 35 000 $, on a quelque chose qui est pas si mal si on regarde pas justement la partie autonomie de l'affaire. Parce qu'à 160 km sur papier, on se dit, bon, c'est un compromis, mais là, on parle de 160 km théoriques parce qu'on est vraiment à 120, 125 dans la vraie vie.
C'est ça, parce que moi, je l'ai eu au mois de novembre, puis je suis allé, je l'ai rencontré allé à Valleyfield, puis il a fallu que je mette de l'énergie à Valleyfield. Je n'avais pas assez pour revenir de Montréal. On s'entend, là, c'est 63 km, puis il me restait 51 km quand je suis arrivé, puis il était plein, là. J'étais plein au bouchon, j'étais à 148 parce qu'il faisait un petit peu plus frais, mais il faisait 7 degrés. Là. On parle pas de moins 22 l'hiver. Là.
Ben, tu vois, j'ai eu ce véhicule-là. Il faisait 7 un jour, puis il a fait moins 6 quelques jours après. J'avais 125 km en situation, disons, de doux printemps.
Oui.
Et à moins 5 degrés, j'étais à peu près à 100 km. Donc, j'avais perdu beaucoup de l'autonomie sur les 160 à la base. Là.
Oui, sur les 160 à la base, c'est beaucoup.
Puis la recharge... Bon, Mazda dit qu'il y a une recharge rapide. On peut trouver une borne rapide, mais il faut...
La bonne nouvelle, c'est qu'on a officiellement annoncé cette semaine que Mazda va amener un prolongateur d'autonomie l'année prochaine.
Oui, c'est ça, exact. Mais longue histoire courte,
Attendez, le prolongateur d'autonomie.
Ce qu'il faut retenir de toute l'expérience, c'est effectivement avec ce qui va donner une espèce d'hybride branchable, dans le fond, il y a peut-être un autre terme à utiliser, là, mais ben, ça va effectivement être la solution parce que à 100 km, on revient à il y a 10 ans avec les premiers véhicules électriques.
Ah oui, non, il n'y a personne qui va embarquer là-dedans.
Et là, on tombe dans l'angoisse de la pile morte.
C'est le syndrome de la pile morte, puis c'est un problème. C'est parce que la notion de proximité. Parce que c'est comme ça que Mazda le vend. Mm-hmm. Mazda dit c'est une nouvelle façon de voir un véhicule électrique pour les déplacements de proximité. C'est parce que la proximité au Japon et ici, je pense qu'on n'a pas la même notion.
Non.
Parce que moi, je considère que Valleyfield, c'est à proximité. Là.
Ben, on peut faire au Japon beaucoup de déplacements sans jamais mettre la roue sur l'autoroute. Alors qu'ici, de l'autoroute, c'est pas mal ça qu'on fait. Et cette voiture-là sur l'autoroute est extrêmement mauvaise. Ben, c'est là où l'autonomie est.
À ce moment-là, prenez-vous un carte de golf. Sauf que vous allez faire de la proximité. Voilà. Bon, mais tu sais, surtout à 42 000 $. Bon, à 20 000, tu dis, bon, OK, peut-être qu'on va le prendre comme deuxième véhicule. Mais là, pas à ce prix-là.
Non, exact. Puis alors, là, l'équipement embarqué ne vaut pas la surprime, en fait, disons-le comme ça.
Donc, il est intéressant. Donc,
voilà, premier contact, effectivement, qui nous laisse, disons, mi-figue, mi-raisin. Il me semble que j'ai déjà utilisé cette expression-là dans les dernières semaines. Mais écoute, je l'ai pour tous les mois d'hiver qui s'en viennent. Donc,
on fera une petite mise à jour.
J'espère trouver une formule dans laquelle ce véhicule-là est approprié.
Quand on va recommencer la saison en janvier, qu'on va tomber dans le froid mois de janvier-février. Ouais. J'ai bien hâte que tu me dises combien est-ce qu'il en reste après tout ça.
Vous saurez si un jour, Benoît, t'es tout seul à faire l'émission, que c'est parce que j'étais en MX-30 cette journée-là. À date, c'est un peu l'impression que j'ai.
Bon, on suivra ça.
Ouais.
Moi, de mon côté, la semaine dernière, j'ai mis la main sur le nouveau Pathfinder 2022. Véhicule qui n'avait pas vu de changement depuis, imaginez, 8 ans.
Ben, il est un peu revenu à son mode camion d'avant. Là.
Oui, mais beaucoup plus embourgeoisé. Ouais. C'est un peu là-dessus que je veux en arriver. Moi, j'ai... je trahis mon âge. J'ai connu la première génération de Pathfinder. Bon, pas en 86, j'étais pas encore journaliste, mais la génération a duré jusqu'en 95, je pense.
Je me rappelle d'une époque où on pouvait... on pouvait s'asseoir en arrière de ce véhicule-là.
Absolument.
Comme dans un pick-up, quasiment.
On avait fait un lancement, je me rappelle, de la génération 95 du côté de l'Ontario. Et c'était à l'époque où c'était plus un coureur des bois. Mm-hmm. Là, on est rendu à un véhicule spacieux, assez bourgeois, bon, qui va très bien, cela dit. Je dirais que c'est une grande amélioration, le modèle qu'on a en ce moment, parce qu'on était assis un peu entre deux chaises avec l'ancien Pathfinder qui n'était
pas... une fourgonnette.
Bon, ben c'est ça le problème. C'est que on le vendait en tant qu'alternative à une fourgonnette. On n'avait pas l'espace d'une fourgonnette, on n'avait pas le côté, je dirais, un peu plus haut de gamme des VUS comparables dans le segment. Il fallait aller chez Infiniti. Puis chez Infiniti, on payait pour de l'équipement parce qu'on avait la même boîte CVT, le même moteur. Là, on a décidé de prendre les choses en main. On a un véhicule qui est plus grand, plus large, plus haut. Là, on parle d'une grandeur de un peu plus de 15 mm au niveau de la largeur. Et surtout, on a un véhicule qui est beaucoup plus haut de gamme. Bon, on avait un véhicule bien équipé là, qui était à 54 000 $ Mais cela dit, on a quand même quelque chose de bien fait. Et grande nouvelle, il n'y a plus de boîte CVT! On est-tu content? Ils ont fini par comprendre, ça a-tu pris du temps? Moi, je me dis toujours à la blague qu'il devait avoir une entente de 20 ans avec Jetco, là, mais mon Dieu, on a fini.
Il y a des endroits où une CVT, ça a du sens, mais j'avoue que dans un véhicule comme celui-là, c'est...
Ah non, c'est une nouvelle extraordinaire. Donc, on a retravaillé aussi l'intérieur, plus haut de gamme. Oui, il y a encore des plastiques, mais l'impression générale est bien meilleure sur le véhicule. Mm-hmm. La capacité de remorquage est accrue. Ça va être une bonne nouvelle.
C'est un gros plus pour un véhicule comme ça, c'est certain.
Exactement, pour beaucoup de gens. On a également travaillé le silence de roulement, qui est grandement amélioré. Bon, évidemment, en termes de consommation, c'est encore le V6. Puis bon, le 9 vitesses, même s'il va bien par rapport à une CVT, il n'y a pas vraiment de gain. Malgré tous mes efforts, je suis resté à 11 litres au 100.
C'est un bon V6 qui n'a jamais été particulièrement
Mais
économe.
C'est un bon V6. Il n'y a pas de mécanique alternative. Il n'y a pas de modèle hybride. Il n'y a pas de modèle hybride branchable. Est-ce que ça va venir? D'après moi, oui. Mm-hmm. Parce que Nissan, là, s'en vient avec le e-Power. Et on va répandre ça dans pratiquement tous les modèles. Je ne serais pas surpris qu'on ait ça aussi. Bon, le comportement est moins vif que ce qu'on trouvait auparavant. Auparavant, on avait quelque chose d'un peu plus nerveux. Là, il est plus gros. Mm-hmm. Donc, il est un peu plus empesé sur la route. Mais si vous recherchez un côté, je dirais, un peu plus statutaire dans votre VUS... Ben, je pense que le Pathfinder a frappé dans le mille de ce côté-là.
Il est supposé être plus agile en route aussi. Hein.
Et on a une troisième banquette
aussi,
qui est honnêtement utilisable. Moi, en tant qu'adulte, je ne ferai pas des grands trajets à l'arrière, mais c'est tout à fait honnête comme véhicule. Et avec une fourchette qui va d'à peu près 43 à 54 000 $ on a un véhicule qui est dans les prix, qui se compare très bien à la compétition, qui paraît très bien, il est beau, le nouveau Pathfinder.
C'est vrai.
Et qui va largement convenir aux besoins de la famille. Alors, donc, je pense que au total, c'est un très bon choix. On a bien évolué du côté de Nissan. Et si vous allez dans ce côté-là, vous avez ça qui est bien fait. Si vous en voulez plus, Infiniti va avoir le QX60. On garde la même approche. Qui vont en ajouter... mais ça va avec l'équipement, parce que c'est le même moteur, c'est la même boîte, c'est le même système 4 roues motrices, mais les gens qui veulent plus de cuir, des bois nobles, aller chercher du côté luxueux, mais honnêtement, dans le modèle qu'on avait, qui était le modèle Platinum, là, tout équipé, plus que ça devient trop.
La frontière est floue entre
on a voulu remonter un peu le Nissan, fait que là, on se rapproche, veux pas, d'Infiniti. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous garde le Grand Cherokee pour la semaine prochaine.
J'ai hâte de savoir ça.
Ça va être notre dernière émission de l'année la semaine prochaine et on va parler aussi de cadeaux de Noël pour les automobilistes. Alors passez une bonne semaine. Merci à Claude Hébert à la console, Alain Mécana. Soyez prudents.
Salut tout le monde.
On s'en parle la semaine prochaine. Salut.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C23.
Recule un peu, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse. Crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.